Fabien Tripier, Rachid Boucharet, vous restez avec nous tout de suite. C'est l'heure du journal de l'écho avec Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Seulement 0,1% de croissance au premier trimestre, a prévenu hier la Banque de France, et cela en raison du coronavirus. Alors que le risque de récession se fait plus net pour l'Italie et l'Allemagne, la France peut-elle encore l'éviter?
Eh bien 0,1%, ce ne sera pas encore la récession technique, mais le risque pour l'emploi est déjà sérieux et amortir le choc coûtera cher pour l'État. La France, comme les autres, se concentre d'abord sur les PME avec des mesures fiscales, comme des reports, voire des allègements d'impôts. C'est le cas d'ailleurs aux États-Unis. Et un paiement du chômage partiel. Jeudi dernier, Muriel Pénicaud estimait cette dernière à 52 millions d'euros pour 400 entreprises demandeuses. Elles étaient 900 hier, hein, faites le calcul. D'autres pays ont doublé ces mesures, eux, d'une relance budgétaire à plusieurs milliards d'euros. C'est le cas du Japon, de l'Italie ou l'Allemagne, on en parlait hier, mais pas la France, pour laquelle, hier sur France Info, l'économiste en chef d'une grande banque estimait, lui, à 6 ou 7 milliards le coût d'une relance. Une relance, oui, mais pas sans les banques, disait-il, et pas sans l'Union européenne non plus, confirme aujourd'hui Eric Dor. C'est le directeur des études économiques à l'ISED School of Management.
Alors écoutez, à la louche comme ça, c'est vrai qu'on pense certainement qu'il faut au moins quelque chose dans une fourchette de 5 à 10 milliards, effectivement. Mais ces calculs sont quand même un petit peu hypothétiques actuellement. Alors, surtout là où la réaction française me semble vraiment excellente, et n'est pas toujours imitée dans d'autres pays jusqu'à présent, c'est d'avoir pensé à accorder une garantie publique aux prêts bancaires, aux PME. Parce qu'effectivement, on est dans une situation où les recettes de beaucoup d'entreprises vont être, ou sont déjà en forte chute. Et on peut penser à des secteurs comme les transports, l'hôtellerie, la restauration, tout ce qui est lié au tourisme, tout ce qui est lié à l'organisation événementielle. Le problème, c'est que les banques peuvent être réticentes à prêter à des entreprises fragilisées, de peur qu'elles fassent défaut. Et c'est là que la garantie publique est extrêmement importante. Ça peut permettre d'éviter beaucoup de pertes d'emplois. Mais disons qu'actuellement, la stratégie du gouvernement français est d'espérer arriver à convaincre les partenaires européens d'une relance budgétaire concertée au niveau de l'ensemble des pays européens. C'est évidemment beaucoup plus efficace, puisque comme vous le savez, en Union européenne, tous les pays commercent beaucoup les uns avec les autres. Donc si un pays fait de la relance budgétaire, une partie va profiter aux autres.
Hier d'ailleurs, Bruno Le Maire appelait l'Union européenne à une réponse franche, massive et coordonnée.
Oui, même si là, aucune décision ne devrait être prise avant le Conseil du 16 mars, reste la réunion monétaire de la Banque Centrale Européenne jeudi. Alors si ce n'est la baisse des taux qui sont déjà négatifs, hein, il y aura peut-être des prêts facilités à très long terme pour que les banques puissent prêter aux entreprises, d'éventuels rachats de titres pour les grandes entreprises et une adaptation éventuellement de la régulation sur les prêts qui sont jugés non performance, c'est-à-dire non remboursé après 90 jours.
On passe au bref, le ciel se vide et le secteur aérien européen se prépare à se densifier.
Eh oui, selon l'impact du coronavirus sur leur endettement, les perdants pourraient nourrir des gagnants potentiels, indiquent des spécialistes à l'AFP. Après la faillite du britannique Flybe, d'autres compagnies fragiles pourraient suivre sa chute. C'est éventuellement la portugaise TAP ou la transcontinentale Norwegian Air sur le même créneau que Flybe et dont l'action est déjà descendue en flammes. On parle aussi d'Alitalia et de SAS, la suédoise. Et certaines d'autres compagnies, comme Ryanair ou EasyJet, aux finances plus saines, pourraient empocher la mise en les rachetant. On sera loin quand même des États-Unis où 80% du marché est contrôlé par quatre grandes compagnies.
C'est aujourd'hui que l'Union européenne doit dévoiler les grandes lignes de sa nouvelle stratégie industrielle, moins naïve face à la concurrence.
C'est ce qu'avait en tout cas annoncé la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, pour cette stratégie qui devrait cibler une vingtaine d'écosystèmes sectoriels, PME, grandes entreprises, start-up, favoriser ce qu'on appelle les mini-Airbus européens comme celui des batteries franco-allemands et éventuellement adapter les règles de concurrence pour pouvoir créer des géants mondiaux. Alors il n'y a pas plus d'informations à cette heure, les vraies propositions seront de toute façon en juin.
Et enfin, le chemin du paradis restera gratuit pour le groupe Led Zeppelin qui vient d'être blanchi de l'accusation de plagiat.
En effet, Jimmy Page et Robert Plant se voient donc épargner 3 à 13 millions de dollars de droits d'auteur au terme d'un procès de 3 ans en Californie. C'est la fin d'une affaire de 50 ans aussi, puisque c'est pour une chanson de 1971 que le groupe de rock était poursuivi par un autre groupe, Spirit, qui lui reprochait d'avoir copié un de ses titres appelé Taurus. Pas de passage intrinsèquement similaire à juger le tribunal. Au fait, dans quel titre? Eh bien, vous l'avez dit, Tiffen, c'est Stairway to Heaven, jugez vous-même.
<t'->
La musique, c'est Spirit. Faut que je les annonce ou pas?
Alors, plagiat ou pas plagiat, qu'est-ce que vous en pensez, Fabien Tripier, Rachid Boucharet? Moi, je dis pas plagiat.
J'ai pas une oreille très fine, très bonne. Hein,
Je voulais vous faire réagir également sur l'impact économique du coronavirus.
J'espère Fabien être un Tripier. Peu plus compétent que pour Stairway to Heaven, mais ce qui est curieux, c'est que c'était une crise qui était attendue, au sens où on a aux États-Unis une expansion qui était déjà de près de 10 ans la plus longue. Et toute la question était, bon, bah, il y aura une récession puisque c'est un peu mécanique, et est-ce qu'on aura les moyens d'y faire face? Et là, il y a une récession qui s'annonce vraiment massive. Je ne vois pas, l'ampleur de la chute d'activité est colossale. La politique monétaire, comme ça a été dit, elle est en Europe, elle est déjà à son maximum. Donc l'enjeu, c'est la politique budgétaire. L'Union européenne et la zone euro a échoué à faire une politique budgétaire coordonnée après la crise de 2008 et les dettes souveraines. Les États-Unis là-dessus ont été beaucoup plus actifs. J'espère que la zone euro sera à même de réussir cette fois-ci à mener une politique budgétaire à la hauteur et coordonnée pour éviter des conséquences trop catastrophiques.